Je vous invite à garder la parole de Dieu ouverte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Nous sommes toujours dans cette partie de cet Évangile où Jésus prépare ses disciples à la vie après son départ. Comment marcher sur le bon chemin, le chemin qui mène à la maison du Père ? Quand le maître ne sera plus là physiquement. Nous l'avons vu la dernière fois. C'est premièrement en obéissant à ses commandements. Et nous avons vu que ce n'est pas par peur des conséquences en cas de désobéissance. Ce n'est pas là la bonne motivation. L'obéissance qui honore Dieu est motivée par amour, par l'amour pour lui. En reconnaissant que la loi est bonne, précieuse, que l'obéissance est désirable. Comment marcher sur le bon chemin qui mène à la maison du Père quand le maître n'est plus là physiquement? C'est deuxièmement, en nous laissant diriger pour cela par son Esprit. Jésus a promis la venue de l'Esprit. L'Esprit est venu. Il a inspiré les auteurs du Nouveau Testament et c'est ainsi qu'il a complété la révélation écrite de Dieu et conduit dans toute la vérité. Nous laisser diriger par l'Esprit, c'est avant tout chérir la parole de Dieu pour nous appuyer sur elle et pour nous conformer à la volonté de Dieu. Enfin, nous avons vu la dernière fois que Jésus promet à ses disciples sa paix. Tout en leur annonçant son départ, il leur promet la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Verset 27 du chapitre 14. Marchez sur le bon chemin, celui qui mène vers la maison du Père, est quelque chose que les disciples de Jésus peuvent envisager en s'attendant à connaître la paix. Et combien nous en avons besoin de cette paix? L'apôtre Paul en avait besoin. Lui qui dit dans 2 Corinthiens 7, « Notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. » Quelle peut bien être la paix dont Jésus parle? Comment l'expérimenter concrètement face à notre propre inconstance, notre faiblesse, face à la réalité indéniable et affligeante du péché qui se trouve encore en nous, dans l'épreuve de la maladie, dans la douleur, face à des forces qui diminuent avec l'âge, devant la perspective de la mort? Face à des relations difficiles qui vous semblent sans perspective de résolution, face à l'instabilité de la société qui se montre de tant de manières, économiques, politiques, morales, comment connaître et expérimenter la paix dont Jésus parle, pour tenir bon, pour persévérer, pour progresser sur le bon chemin? Nous trouvons la réponse dans ce chapitre, par une simple exhortation de Jésus. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et c'est le titre que j'ai choisi pour cette prédication. Demeurez en moi. C'est ce qui nous permet non seulement de connaître sa paix, mais aussi d'être remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Selon une prière de Paul pour les Philippiens au chapitre 1, versets 10 et 11. Considérons premièrement comment Jésus nous explique ce que signifie demeurer en lui. Il le fait par une illustration viticole avec le cep et les sarments. Ce sera notre premier point, le cep et les sarments. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Un plant de vigne est fait du cep, qui est le tronc avec ses racines, et de sarments, qui sont les branches principales, qui poussent à partir du cep. Il y a dans cette plante un ordre qu'on ne peut pas changer. Les sarments poussent à partir du cep. Ils en dépendent entièrement. Ils ne peuvent pas vivre, se développer, sans être attachés au cep. C'est le cep qui leur donne la vie et qui leur permet de porter du fruit. Maintenant, il arrive qu'un sarment ne porte pas de fruit. Ça peut être pour raison de maladie, par exemple. Il y a des sarments qui peuvent être atteints de maladie. Ça peut être le cas quand il n'est pas bien attaché au cep. Comme par exemple, lorsqu'il y a un animal qui a passé par là et qui l'a partiellement arraché. Vous pouvez vous imaginer ce cas. Mal attaché, le sarment ne reçoit pas assez de sève pour se développer et porter du fruit. Et ce que le vigneron fait alors, c'est de retrancher de tels sarments parce qu'ils n'ont pas d'utilité dans sa vigne, si ce n'est comme combustible pour faire du feu. Jésus évoque cela dans les versets 1 et 6. Mais pour les sarments qui portent du fruit, le vigneron ne reste pas tout à fait inactif non plus. Il les émonde, c'est-à-dire qu'il les taille. Il coupe les branches latérales qui poussent en trop pour que la sève se concentre sur la partie principale, sur le sarment lui-même, et l'amène à porter un fruit abondant qui mûrit bien. Émonder est une activité essentielle du vigneron pour favoriser le sarment à porter un fruit abondant et de bonne qualité. L'illustration de Jésus est tout à fait simple et parlante. Deux choses sont nécessaires pour que le sarment porte du fruit. Il doit rester attaché au cep et il doit être émondé. Il doit rester attaché au cep et il doit être émondé. Et c'est la même chose pour un disciple. Jésus applique en effet son illustration du cep et des sarments à ses disciples. Il dit tout sarment qui porte du fruit, le vigneron l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et puis au verset 5, moi je suis le cep, vous les sarments. Donc ce que je viens de vous dire là de cep et de sarment, ben, ça vous concerne vous et moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Est-ce que vous voyez l'idée clé? Pour vivre, pour connaître la paix que Jésus donne, pour porter du fruit pour la gloire de Dieu, nous avons besoin de demeurer en Jésus. Et nous avons besoin d'être émondés. Deux choses, demeurer en Jésus, rester attaché à lui et être émondé. Et notez bien, Jésus est le vrai cep. Celui qui seul peut donner la vie, la grâce pour vivre pour la gloire de Dieu et être gardé dans sa paix. Maintenant, pour demeurer ou rester en lui, il faut d'abord être trouvé en lui. Vous savez comment c'est quand vous appelez le numéro principal d'une entreprise et vous demandez à pouvoir parler à quelqu'un en particulier dans cette entreprise. Un employé du service de facturation, par exemple. La personne qui reçoit votre appel vous dit « Restez en ligne pendant que je vous transfère. » Pour rester en ligne, il faut d'abord être en ligne, n'est-ce pas? Il faut d'abord avoir été connecté. De même, pour rester ou demeurer en Jésus, il faut d'abord être en Jésus. C'est-à-dire qu'il faut avoir cru qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver de la perdition. Il faut croire, il faut avoir cru en lui comme Seigneur et Sauveur. C'est par la foi que nous sommes trouvés en lui. Et demeurer en lui, c'est continuer dans la même foi dans laquelle on a commencé. C'est dépendre de lui et nous reposer sur lui continuellement pour nous savoir en paix avec Dieu, pardonnés et réconciliés. Nous avons besoin de croire en lui pour être sauvés et nous avons besoin de croire en lui pour vivre la vie nouvelle qu'il nous donne. Pourquoi est-ce que Jésus a besoin d'exhorter ses disciples à demeurer en lui? C'est parce que ses disciples, comme nous tous, avons une fâcheuse tendance à passer à autre chose. À penser notamment que sa grâce est bonne et suffisante initialement pour nous rapprocher de Dieu, pour nous assurer sa faveur, mais pas pour rester assuré de sa faveur. Paul évoque ce problème dans son épître aux Galates, où il dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Donc vous avez commencé d'une manière et maintenant vous voulez continuer autrement. Vous avez été justifié par la foi en Christ. Vous avez été réconcilié avec Dieu par la foi en son Fils. Vous êtes devenu enfant de Dieu en recevant Jésus avec foi. Vous avez reçu l'Esprit en recevant la prédication de la bonne nouvelle avec foi. Et maintenant, vous voulez passer à autre chose? Vraiment? Fâcheuse tendance à bien commencer pour passer à autre chose après. Et cette autre chose, en l'occurrence, dans le cas des Galates, n'était rien d'autre qu'un retour au légalisme, à l'idée de pouvoir obtenir la faveur de Dieu par l'observation de sa loi. Comme les Galates, nous avons tendance à nous confier dans nos propres efforts et œuvres pour rester assurés de la faveur de Dieu, plutôt que de nous confier en Christ seul pour cela. Voilà comment cette fâcheuse tendance se manifeste dans nos vies. Je fais ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. Donc, conclusion, Dieu doit être content de moi et m'aimer d'autant plus. Et à l'inverse, je ne lui ai pas fait assez confiance, j'ai eu des doutes à son sujet, je n'ai pas assez prié, j'ai eu des pensées, des sentiments, voire même commis des actes qui ne sont pas dignes de lui. Sans doute que Dieu ne peut pas aimer quelqu'un comme moi. Et je ne peux par conséquent avoir aucune assurance de sa faveur. Et hop, j'ai glissé dans le légalisme. Car dans ce cas, avec ces deux exemples que je viens d'évoquer, dans ce cas, mon espérance ne dépend pas de Christ, mais de moi-même. Pas de sa grâce et de son amour immérité, mais de la présence ou de l'absence de mérite de ma part. Demeurer en Jésus, c'est donc dépendre de lui et nous reposer sur lui continuellement pour nous savoir en paix avec Dieu, pardonner, réconcilier et simplement aimer. Jésus nous fait en effet comprendre, dans un deuxième temps, dans ce texte, que demeurer en lui est fondamentalement demeurer en son amour. Être assuré de son amour par la foi. Ce sera notre deuxième point. Demeurer dans mon amour. Il dit, plutôt au début de ce chapitre, « Demeurez en moi ». Et c'est comme s'il nous indiquait maintenant ce que cela signifie plus concrètement. C'est « Demeurer dans mon amour ». Verset 9. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Comment est-ce que le Père a aimé le Fils? D'un amour parfait et éternel. Comment est-ce que le Fils a aimé les siens, ses disciples, nous qui croyons? De la même façon que le Père l'a aimé lui, d'un amour parfait et éternel. Tout le ministère de Jésus en faveur de ses disciples était animé de son amour pour eux. La raison derrière son incarnation, de sa venue dans ce monde, la raison derrière son humiliation, de son obéissance jusqu'à la mort à la croix, c'est son amour pour le Père, certes, et en même temps, son amour pour ceux qu'il est venu sauver. Il n'y a qu'une seule véritable source de paix pour nous, et c'est celle-là, l'assurance de son amour pour nous. Un amour éternel et parfait, démontré dans sa venue, tout au long de son ministère et ultimement dans sa mort à la croix. Et c'est un amour, nous dit la parole, dont rien ne peut nous séparer. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans son amour. C'est nous rappeler et faire reposer notre espérance sur son amour seul. Pensez aux choses qui ont typiquement tendance à nous enlever la paix. Ce que Paul appelle les luttes au dehors et les craintes au dedans. C'est le cas quand vous vous trouvez méprisé, rejeté. Par exemple. Ou quand vous voyez l'agitation politique, l'instabilité économique, la folie d'une société qui s'égare de plus en plus dans le rejet de Dieu, dans le rejet de l'ordre créé, et qui finit par mettre de côté, par ostraciser ceux qui le proclament et défendent la vérité. C'est le cas quand vous vous demandez jusqu'où cela peut encore aller. Ou bien c'est le cas, la paix nous est enlevée, ou a tendance à être enlevée, quand vous ne cessez d'être éprouvé, de souffrir, de toutes sortes de manières, dans la solitude, dans la maladie, avec des douleurs que rien ne semble pouvoir soulager, avec des forces qui diminuent, une conscience croissante, que je me dirige vers la mort, ce qui est en réalité notre cas à tous, à tout moment. Quand je sais pertinemment que je ne suis toujours pas à la hauteur des exigences, malgré toute mon aspiration à progresser, j'ai heureusement conscience du péché qui se trouve encore dans ma vie. Comment quelqu'un pourrait-il connaître la paix dans tout ça? C'est en se sachant aimé d'un amour immérité, inaltérable, éternel et parfait. Un amour qui ne dépend de rien au dehors et de rien au dedans de moi, mais de celui qui a choisi de nous aimer et qui a prouvé son amour envers nous. Est-ce que vous savez à quoi se mesure son amour pour nous? Ce n'est pas à nos circonstances, selon qu'elles sont plus ou moins faciles et agréables. Ce n'est pas à la qualité de notre état de santé que se mesure l'amour de Dieu pour nous. Il se mesure à la croix, au sacrifice offert par Dieu lui-même pour notre rachat. Il se trouve prouvé là où Jésus lui-même a donné sa vie pour nous. Et cet amour-là ne change pas en fonction de notre état, de nos circonstances ou de notre progrès dans la sainteté. Demeurer dans l'amour de Jésus, c'est me rappeler avec foi que c'est lui qui a satisfait parfaitement les exigences divines à ma place et qui a payé le prix du rachat pour moi, par pur amour. Et alors qu'il n'y avait pas de raison de m'aimer. Combien nous avons besoin de nous rappeler de cela, quand nous avons conscience du péché qu'il nous arrive encore de commettre. Si notre cœur nous condamne, dit Jean dans sa première épître au chapitre 3, si notre cœur nous condamne, c'est-à-dire quand nous avons conscience de notre culpabilité et de notre péché, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et il connaît certainement ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Une œuvre parfaite, une rédemption éternelle, pas parce que nous étions assez bons et aimables, mais parce qu'il a choisi de nous aimer. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Établi comme sarment, attaché au cep. Demeurer dans son amour est ce qui nous permet de dire « Oui, je suis un pécheur, mais Christ est mort pour mes péchés. Étant justifié par la foi en lui, j'ai la paix avec Dieu. » Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Nous rappeler de son amour prouvé une fois pour toutes est ce qui nous permet de dire face à n'importe quelle souffrance, n'importe quelle lutte au dehors, n'importe quelle crainte au dedans, n'importe quelle épreuve et adversité, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. En fait, l'amour de Jésus est comme la sève du cep qui nourrit le sarment et produit du fruit, un fruit de paix, et pas seulement. Est-ce que vous avez vu ce que Jésus dit au verset 11? Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Demeurer en son amour est aussi ce qui nous permet de connaître la joie, et pas juste un peu de joie, mais une joie complète, totale. Pour bien être nourri de la nourriture que nous ingérons, il est bien de la mâcher, n'est-ce pas, pour qu'on puisse bien la digérer. Mâchez cela un moment dans votre intelligence, pour bien pouvoir le digérer dans votre cœur. Est-ce que vous réalisez ce que Dieu veut pour vous? La paix et la joie. Dans Philippiens 4, 4, Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Ça ne veut pas dire que nous devrions vivre dans une sorte d'extase exubérante qui ferme simplement les yeux sur les réalités dures et sombres de notre existence. Il n'a pas une joie artificielle en vue, mais une joie véritable, complète. Il y a une place pour l'affliction, pour la tristesse, pour l'expression de la douleur, pour la lamentation. Il y a une place pour dire, quand quelqu'un vous demande comment ça va, il y a une place pour dire, je ne vais pas bien. C'est dur. J'ai de la peine. Nos épreuves sont de vraies épreuves. Nos combats sont de vrais combats. Et pourtant, dans tout cela, nous pouvons réellement connaître et expérimenter la paix et la joie. Comment ? En demeurant en Christ. En étant assurés de son amour dont rien ne peut nous séparer. En étant assurés de sa victoire déjà accomplie sur le péché et la mort. En attendant son retour en gloire pour nous faire entrer dans l'héritage céleste qui nous est assuré en lui, en comptant sur sa fidélité à ses promesses. Je vous donne ma paix, et afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. N'est-ce pas étrange lorsque nous avons une conception morose, peut-être très austère, très pesante de la vie chrétienne. Une conception où nous avons peut-être même peur d'éprouver de la joie, comme si un tel sentiment était presque un manque de sérieux ou une forme de plaisir illégitime. Il ne faut surtout pas éprouver de la joie parce qu'on risque d'être superficiel. Ce n'est pas sérieux. Une vie de foi est sérieuse. Elle concerne les choses les plus essentielles, fondamentales, glorieuses et profondes, mais elle est aussi censée être sérieusement joyeuse. Méfiez-vous des voleurs de paix et de joie. Il y en a beaucoup. Méfiez-vous du légalisme en particulier, de l'idée de devoir obtenir la faveur de Dieu par une observation méticuleuse de la loi, au risque d'être sous la colère de Dieu en cas d'échec. Vous ne pouvez pas connaître la joie en fonctionnant par légalisme. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Il nous libère du fardeau, du poids de la loi qui nous condamne pour nous apprendre à observer la loi par amour pour Dieu, joyeusement et avec confiance. Méfiez-vous de la comparaison. Quel terrible voleur de joie. Je ne suis pas aussi, je laisse un blanc, vous pouvez tout mettre, je ne suis pas aussi que tel et tel. Dieu ne vous aime pas plus ou moins selon que vous êtes plus ou moins bon, consacré, saint, compétent, etc. que quelqu'un d'autre. Il a choisi de nous aimer alors que nous étions pécheurs. Et il a prouvé son amour en Christ, point. La comparaison vole la paix et la joie. Le regard à Christ permet de les connaître même là où nous avons conscience de nos manquements. Méfiez-vous du diable avec ses mensonges et ses accusations. Il est très fort pour relever nos fautes, la laideur, l'ampleur de nos péchés. Mais il ne va jamais vous rappeler la surabondance de la grâce de Dieu et de son amour immérité. Méfiez-vous enfin des circonstances et relations comme source de paix et de joie. Ils peuvent y contribuer, certes, mais ils peuvent aussi complètement les enlever. Parce qu'ils sont fluctuants, les circonstances changent, les relations ne sont pas stables, souvent. Ils peuvent contribuer à notre paix, à notre joie, mais ils ne doivent pas en constituer la source première. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Notez bien, cette joie dont Jésus parle n'est pas une joie sans contenu. C'est une joie dans le Seigneur, en nous rappelant de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous, de l'amour qu'il a prouvé pour nous, et de l'assurance que nous avons en lui. Et tout cela, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, y compris en envisageant l'obéissance à ses commandements. Comme nous l'avons déjà vu, nous l'avons vu avec une citation de Deutéronome 6 la dernière fois, où Dieu appelle son peuple à mettre en pratique ses commandements, et il leur dit, c'est afin que vous soyez heureux, afin que vous soyez heureux, épanouis. Enfin, Jésus nous amène avec son illustration du cep et du sarment à la notion du fruit, un fruit particulier qu'il veut nous faire porter. Quel est ce fruit, selon ce texte? Il s'appelle encore amour. Notre amour pour lui, certes, mais ici surtout notre amour les uns pour les autres. C'est ce que nous verrons avec un troisième point. Aimez-vous les uns les autres. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans son amour et c'est aimer à notre tour selon son commandement. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment est-ce qu'il nous a aimés? Verset 13. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Son amour est un amour vécu dans le renoncement à soi au point de se sacrifier pour les siens. Et il ne les appelle pas juste serviteurs, il les appelle amis. Grande différence. Pourquoi? Parce que sa relation avec eux va au-delà d'une relation ordinaire entre maître et serviteur, où le serviteur exerce juste une fonction, il accomplit une tâche et c'est tout. Un ami est plus que cela. Pour vous qui avez des amis, comment est-ce que vous vivez vos amitiés? C'est en poursuivant des intérêts et des projets communs, n'est-ce pas? C'est en participant à la vie l'un de l'autre. Et l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 3, verset 14, que nous sommes devenus participants de Christ. Pas juste des serviteurs qui n'accomplissent que des tâches, mais sans relation, mais nous sommes devenus participants de Christ. La relation de Jésus avec ses disciples est une relation dans laquelle il les fait participer à tout ce qu'il a reçu du Père. Il leur fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père, dit-il au verset 15. Il les fait participer à toute la richesse de la grâce que le Père manifeste en lui. En tant qu'amis de Jésus, nous sommes appelés à participer, à poursuivre ses intérêts, ses projets. Et quel est son projet essentiel? C'est de glorifier le Père. Glorifier le Père. Mon Père est glorifié en ceci. Verset 8, c'est ce qui nous montre le souci premier que Jésus a, que le Père soit glorifié. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. C'est-à-dire, c'est ce qui vous distinguera comme mes disciples. Alors, quel est ce fruit qui devrait être abondant? C'est essentiellement de nous aimer les uns les autres, d'un même amour comme celui qu'il a manifesté envers nous. C'est là le fruit qui demeure, que Jésus évoque au verset 16, c'est-à-dire un amour véritable, profond, délibéré, sacrificiel. L'amour est l'accomplissement de la loi, nous dit Paul dans Romains 13, 10. L'amour résume en fait toute la loi, autant les commandements qui concernent plus particulièrement notre relation avec Dieu, que ceux qui concernent plutôt nos relations les uns avec les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pas comme le monde, pas par intérêt personnel, selon ce que l'autre peut m'apporter, mais comme Dieu, par choix, intentionnellement, en trouvant notre joie simplement à faire du bien, à montrer de l'affection, à traiter avec bienveillance, avec patience, à renoncer à nous-mêmes et à donner plutôt que de vouloir recevoir. Et cela même là où nous trouvons qu'il n'y a rien d'aimable chez l'autre. Pas besoin d'être prophète pour constater notre besoin de progresser, n'est-ce pas? Pour porter plus de fruits et un fruit de meilleure qualité, en particulier pour ce qui concerne l'amour. Comment porter ce paisible fruit de justice et d'amour dans nos vies? Celui qui demeure en moi, dit Jésus au verset 5, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc ce n'est pas le fait de simplement faire plus d'efforts ou d'être plus discipliné qui nous permet de porter plus de fruits pour la gloire de Dieu. C'est plutôt le fait de demeurer en Christ, en restant fermement attaché à lui. En fait, plus nous sommes nourris et assurés de son amour, comme la sève qui nourrit, du cep qui nourrit le sarment, plus il nous rend capables d'aimer à notre tour. Et enfin, c'est en nous laissant émander par le Père. Dans tout cela, nous pouvons compter sur l'œuvre de Dieu qui nous émonde. À quelle réalité pensez-vous que l'émondage fait allusion dans notre vie? À quelle réalité? Sans doute à la réalité de la sanctification, à notre progrès dans la sainteté, dans une manière de vivre qui honore Dieu et qui reflète ses vertus. Pour émonder, le vigneron utilise un sécateur. Il coupe les branches qui poussent en trop ou dans de mauvaises directions. Quel serait l'outil que Dieu utilise pour émonder les siens? C'est principalement sa parole. Verset 3, « Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est par sa parole qu'il nous a fait sortir de notre vaine manière de vivre et nous a amenés à la foi. C'est par elle, la parole de vérité, inspirée de l'Esprit, qui nous a convaincus de péché pour que nous apprenions à le détester et le mettre à mort. C'est par elle qu'il nous a fait connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est par elle qu'il nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. C'est par elle qu'il nous apprend à discerner, à identifier, à rejeter le mensonge, à lutter contre la tentation et à nous voir comme Dieu nous voit pour vivre comme Dieu le veut. C'est par sa parole qu'il nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Hébreux 13, verset 21. Et en fait, capable de porter du fruit qui demeure, un paisible fruit de justice, nourri par son amour et motivé par notre amour en retour. C'est pourquoi nous avons besoin de laisser la parole du Christ habiter en vous ou en nous avec sa richesse. Colossiens 3, 16. C'est pourquoi nous avons besoin de laisser la parole de Dieu occuper une place centrale dans notre vie d'église. C'est pourquoi une bonne partie du culte d'adoration que nous rendons à Dieu consiste à nous mettre à l'écoute de sa parole prêchée. Comment connaître et expérimenter la paix dont Jésus parle pour tenir bon, pour persévérer, pour progresser sur le bon chemin dans une obéissance joyeuse et confiante malgré toute l'adversité que nous pouvons connaître, comment apprendre à aimer comme lui nous a aimés, c'est en demeurant en Jésus. En restant attaché continuellement à lui pour être assuré de son amour. Et d'ailleurs, c'est l'amour du roi des rois, de celui qui règne, celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, celui qui dirige tout avec une sagesse, justice et bonté parfaite. Quelle source de paix et de joie de le connaître et de se savoir aimé par lui. Je vous ai parlé ainsi, dit Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Amen.